Très bien. Alors, nous allons reprendre nos travaux. Je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu Pot-Bonneville, que vous connaissez sans doute tous ici, hein, puisqu'il est l'auteur d'un certain nombre de livres maintenant sur Foucault, écrits soit par lui-même ou co-écrits avec Philippe Artière. Voilà, je te laisse la parole. Tout de suite.
Merci. Alors, je commence par présenter des excuses pour cette présentation en quelque sorte décalée, puisque il était prévu que j'intervienne ce matin dans la séquence consacrée à l'écriture chez Michel Foucault, et me voilà cet après-midi dans la séquence consacrée à la lecture chez Michel Foucault. Mais je me sortirai de cet embarras en remarquant que mes objets, ceux que je vais essayer d'examiner ici, se situent en quelque sorte à égale distance de ces deux gestes, puisque je vais essayer d'examiner à la fois les comptes rendus et les préfaces rédigées par Foucault pour d'autres auteurs, et examiner, c'était la règle du jeu du travail que nous avons mené ces dernières années dans le cadre de cet ANR, d'examiner ce qu'il en est de ce que nous apprend cette pratique d'écriture, de la démarche et de la posture intellectuelle ou philosophique de Foucault, ce que la matérialité même de cette pratique peut nous enseigner de sa pensée, ou les articulations qu'on peut trouver entre les deux plans. Mon intervention s'intitulera donc l'écriture compte rendus et préfaces, deux points, un art impur, point d'interrogation. Alors, on est justement entre lire et écrire. Je voudrais commencer par m'autoriser d'une formule que j'emprunte à Daniel Defer dans l'entretien que nous avons réalisé ensemble récemment. Et Daniel disait que Foucault pense en lisant et en écrivant, et que sa pensée, je te cite, se formule dans une sorte de corpus textuel permanent. Du coup, on pourrait penser que le compte-rendu, la préface, constitue dans ce dispositif-là un lieu particulièrement stratégique, puisque rendre compte, préfacer, c'est somme toute à la fois écrire sur ce qu'on lit et frayer pour ses lecteurs, par l'article qu'on va proposer, une voie vers d'autres textes. Ça circule. À cette circulation s'ajoute, dans le cas de Foucault, une distribution des rôles qu'on a assez souvent remarqué. Entre circulation des rôles, entre plusieurs registres d'écriture ou entre plusieurs écritoires. En effet, on le sait, ces livres entretiennent un double silence assez constant, à la fois vis-à-vis de l'actualité, puisque la tâche de l'archéologue s'arrête systématiquement au seuil du problème contemporain qu'il s'agit d'éclairer, silence donc vis-à-vis de l'actualité, silence vis-à-vis des pairs. Silence vis-à-vis des pairs, puisque pour prendre la mesure de ce contournement, il suffit de comparer l'appareil de notes des ouvrages de Foucault de celui, par exemple, des livres de Deleuze, où, m'a-t-on dit, ses interlocuteurs cherchaient fébrilement à chaque parution la mention de leurs propres travaux pour voir s'ils se trouvaient dans les notes et, au fond, s'y retrouvaient souvent parce que Deleuze était relativement généreux en matière de citation de ses contemporains. Pas Foucault. C'est que, en effet, du présent et des autres, il est question ailleurs. Chez Foucault. Précisément, dans l'entour des grands livres, dans cette myriade d'articles et d'entretiens réunis dans les 10 écrits, de sorte que paraît se vérifier le diagnostic de Deleuze, cite ce texte célèbre, parce que tout dispositif comprend deux dimensions, la part de ce que nous sommes déjà plus, et la part de ce que nous sommes en train de devenir, ou comme le dit Deleuze, la part de l'histoire et la part de l'actuel. Eh bien, Foucault aurait pris soin de faire jouer sa pensée sur deux écritoires distincts et complémentaires, comme le sont chez Nietzsche les œuvres d'un côté et le narlas qui leur est contemporain. Appartiendraient alors à ce deuxième registre, le registre de l'actuel, les 11 comptes rendus réunis dans les 4 tomes des 10 écrits, depuis le compte rendu que Foucault consacre en 1961 à la révolution astronomique d'Alexandre Coiré, jusqu'à la recension en 82 de l'ouvrage de Dover « Homosexualité grecque », en passant par les textes plus ou moins longs, publiés dans des revues académiques et aussi dans la presse, et consacrée à des œuvres aussi différentes que celles de François Jacob, Klossowski, Mesrine ou Glucksmann. Les bandits n'étant pas nécessairement ceux qu'on pense dans cette liste. Peuvent être également rapprochés de cet ensemble les 14 préfaces que Foucault a rédigées pour d'autres. J'excepte de notre corpus, qui est déjà assez compliqué et assez divers, les préfaces que Foucault a rédigées pour lui-même. Je parlerai d'une tout à l'heure. Ces préfaces, ce qui est compliqué, c'est que la distance de ces préfaces à son propre travail apparaît en réalité très variable, ce qui rend assez flottante la délimitation précise de mon corpus. Je veux dire que le texte consacré à Binswanger ou l'introduction à Rousseau, juge de Jean-Jacques, constituent des essais qui sont difficilement séparables des développements archéologiques de Foucault, alors que les préfaces à l'édition américaine de l'Anti-Oedipe ou la traduction française de Leur prison de Bruce Jackson entretiennent par leur souci de l'occasion une assez grande parenté avec l'ensemble que forment les comptes rendus. Voilà donc à peu près le nuage de textes dont je vais parler, cette pratique d'écriture à laquelle je vais m'intéresser. Il se pourrait pourtant que le statut précis de cette pratique d'écriture-là pose un problème un peu plus complexe que ne le laisse entendre la distinction deleuzienne entre l'histoire et l'actuel. De même, en effet, qu'il ne suffit pas d'éviter de la coucher dans un livre pour trouver la bonne manière de penser l'actualité, si l'actualité, par définition, rend obsolètes les concepts qui prétendent la saisir. De même, le geste d'écrire sur des écrits ne peut se prétendre évident ou innocent chez un auteur qui a dénoncé très tôt, avec une grande constance, la pratique du commentaire. Parler sur la pensée des autres, chercher à dire ce qu'ils ont dit, c'est faire une analyse du signifié. Mais est-il nécessaire que les choses dites ailleurs et par d'autres soient exclusivement traitées selon le jeu du signifiant et du signifié? C'est en essence de la clinique. On trouve des remarques à peu près analogues dans l'ordre du discours, puisque dans ce texte, Foucault inscrit le commentaire parmi les procédures de raréfaction des choses dites, qui introduisent une sorte de redoublement dont, entre texte et texte sûr, mais redoublement dont la dénivellation replie en quelque sorte certains énoncés sur les autres. Je cite, « Le commentaire conjure le hasard du discours en lui faisant sa part. » On voit alors le problème. Si par définition, un compte-rendu, une préface, ont vocation à donner écho à une parution récente, il se trouve en quelque sorte au carrefour entre les difficultés de dire l'actuel et puis la forme de répétition à laquelle le commentateur paraît condamné. À cette difficulté, qui concerne en quelque sorte l'ordre des énoncés, ce que l'on dit de ce qui a été dit, s'ajoute l'ambiguïté liée à ce qu'on pourrait appeler l'énonciation du compte-rendu ou de la préface. Je veux dire, le geste même de rendre compte, c'est-à-dire de fixer par un texte second le sens et le statut de l'ouvrage que l'on entend honorer d'une certaine manière. Je rappelle que l'assignation d'une identité aux œuvres et aux auteurs procède, dit Foucault dans l'histoire, dans l'archéologie du savoir, d'une morale d'état civil, dont il entend qu'elle le laisse en paix. Et on pourrait dire de la même manière que la recension n'est jamais très éloignée du recensement. Il s'agit en effet de rendre publique l'attention qu'on a portée à un ouvrage, de distinguer celui-ci dans la masse des textes publiés, de lui indiquer une place dans l'horizon des questionnements contemporains, de le ranger en somme. On se souvient du geste amusant par lequel Jean-François Lyotard faisait suivre le différend d'une fiche de lecture, autorisant les lecteurs à ne pas lire le livre, puisque ainsi ils pouvaient lire la fiche. Et là, quelque chose de tout à fait ironique. Bref, le dilemme, en réalité, vient de ce que parler d'un livre tend tout autant à en identifier l'auteur et le contenu, au risque de circonscrire la disparité de leur réception possible, qu'à en même temps à en prolonger l'impact, à en multiplier les effets, conformément cette fois à la conception selon laquelle un texte devrait trouver sa valeur, non pas dans son intention première, mais dans la série des énoncés qu'il permet d'ouvrir, d'intensifier, de réfléchir. Écrire ou ne pas écrire sur ce que l'on a lu et sur ce qui s'est écrit. Voilà le dilemme. Pour prendre la mesure de ce dilemme, il suffit en un sens de rapprocher deux textes dont, à ma connaissance, on n'a jamais relevé qu'ils formaient l'un vis-à-vis de l'autre une forme de décalque inversée. Le premier est très connu. Il s'agit de la préface à la réédition d'Histoire de la folie en 1972, où Foucault, comme on sait, ne s'avance que pour se retirer et retirer l'ancienne préface, soustraire le texte à l'autorité de son auteur. Je cite l'ouverture et la fin de ce texte fameux. « Je devrais, pour ce livre déjà vieux, écrire une nouvelle préface, j'avoue que j'y répugne. » Et la fin, ou la presque fin. « Quant à la nouveauté, ne feignons pas de la découvrir en lui comme une réserve secrète, comme une richesse d'abord inaperçue. Elle n'a été faite que des choses qui ont été dites sur lui et des événements dans lesquels il a été pris. » Or, il est frappant de remarquer que ces deux phrases qui encadrent la trajectoire de cette non-préface, sont en quelque sorte prélevées par Foucault sur l'un de ses textes plus anciens. Très précisément, le compte-rendu qu'il a publié en 1962 de « L'univers imaginaire de Mallarmé » de Jean-Pierre Richard. Cette recension commence en effet ainsi, je cite, « Puisque ce livre est vieux, déjà, de 2 ans, le voici solidaire de ses effets, n'est pas encore déchiffrable la suite de ses conséquences, mais du moins en leur figure d'ensemble, les réactions qu'il a provoquées. Un livre n'est pas important par ce qu'il remue de choses, mais lorsque le langage autour de lui se décale, aménageant un vide qui devient son lieu de séjour. » Il y a là, d'un texte à l'autre, une répétition remarquable, qui comprend en réalité 3 aspects. Premièrement, une symétrie dans l'évocation de 2 vieux livres, formule du livre déjà vieux qui revient dans les 2 cas. Deuxièmement, un souci commun de déjouer dans un cas l'intention secrète de l'auteur, dans l'autre, la référence à des choses constantes que le livre se contenterait de remuer, on congédie le sujet, on congédie les choses. Et puis enfin, une commune ambition dans l'espace ainsi libéré, de laisser jouer là des événements, ici de déchiffrer des effets dont l'ouvrage est devenu solidaire. Cette répétition, cette forme de décalque, porte plusieurs enseignements, est intéressante à plusieurs titres. On peut mesurer d'abord en quoi le vœu de rendre aux énoncés, comme dit l'histoire de la folie, la désinvolture de se présenter comme discours, ce vœu était énoncé en 72 dans le lexique de la généalogie, à la fois bataille et armes, stratégie et choc, lutte et trophée, blessure. En 62, à propos de Jean-Pierre Richard, dans des termes qui rappellent plutôt le Raymond Roussel, le vide du langage, le séjour du langage, en réalité, ce vœu-là enjambe la rupture supposée entre le premier et le deuxième Foucault. Elle définit de l'un à l'autre une sorte d'éthique de la lecture assez constante. Laisser libre le discours. Lire de manière à laisser libre le discours. On pourrait alors se dire que ces 2 gestes, consistant d'un côté à refuser pour soi-même le rôle d'auteur préfacier, de l'autre à rendre compte du destin d'autres ouvrages, sont en somme complémentaires. Le premier ménage l'échappée où trouve à s'inscrire le second. Le premier lève l'hypothèque de l'autorité de l'auteur et du coup l'autre peut laisser libre le décompte des effets. Les choses toutefois ne sont pas aussi simples, à supposer que ce que j'ai dit soit simple. Force est de constater en effet qu'en 72, Foucault n'accuse pas seulement l'auteur de vouloir faire la loi sur le livre. Il ajoute aussi, je cite, « Je voudrais bien qu'un livre ne se donne pas à lui-même ce statut de texte auquel la pédagogie ou la critique sauront bien le réduire. » Toute la question est alors celle des stratégies discursives au travers desquels le Foucault critique et préfacier peut conjurer cette sorte de prophétie énoncée par le Foucault préfacier de lui-même. Comment le Foucault auteur de préface et de compte-rendu peut-il se porter à la hauteur de l'exigence de Foucault adversaire des préfaces? Stratégie doit s'entendre ici en un sens qui n'est pas abstrait ou étroitement intellectuel, car le compte-rendu ou la préface constitue, dans l'ordre des productions intellectuelles ou académiques, un espace particulièrement impur, au sens où Jean-Luc Godard pouvait parler du cinéma comme d'un art impur, pour dire que le cinéma, au fond, est toujours pris, pas vous le faire avec l'accent suisse, mais entre les contraintes de la production, de la direction d'une équipe, etc. Tâche parfois de commande, écho de relations de proximité, ayant à compter à chaque fois avec les contraintes, les formats de la publication pour collective, avec le rythme de la presse, préface et compte-rendu sont aussi des espaces où se négocie, plutôt que la loi de l'auteur, ce qu'il faudrait appeler le jeu de l'autorisation. Soit qu'un sujet écrivant s'autorise de la reconnaissance du texte dont il rend compte, pour affermir sa propre position d'écriture, par exemple lorsqu'on préface une édition qui va faire autorité, lorsqu'on déplace le regard porté sur une œuvre classique, lorsqu'on prend position sur un texte alors en discussion, soit, à l'inverse, qu'il fasse bénéficier de son crédit, que le préfacier fasse bénéficier de son crédit une publication qui, sans cela, passerait inaperçue, qui lui donne un surcroît de légitimité ou de caution politique. Pour faire un mot un peu facile, on pourrait dire que la littérature secondaire est souvent, du point de vue d'une sociologie du champ littéraire ou du champ intellectuel, une littérature secondée, ou d'une littérature secondant les textes. Littérature secondée par la solennité des textes sur lesquels elle prend appui, pour appui sur un texte pour constituer sa propre position d'auteur, ou une littérature qui seconde les textes qu'elle préface lorsque l'auteur du compte-rendu jouit déjà d'une certaine notoriété. Ainsi envisagée d'ailleurs, la série des textes dont je parle dessine en fait, si on suit la chronologie des 10 écrits, une trajectoire assez classique, une trajectoire assez attendue. Dans l'ordre chronologique, on a d'abord affaire à des articles par lesquels Foucault renouvelle, dans les années 60, la lecture de quelques classiques, Rousseau, Flaubert, prolonge ses lignes d'interprétation archéologique en traitant des transformations de la biologie, chez François Jacob, en insistant sur la rupture qu'a constituée la parution de la grammaire générale d'Arnaud et Nicole. En bref, il installe sa signature propre. Il s'introduit en introduisant. Et puis, ensuite, à partir des années 70, la relation hiérarchique entre le paratexte et le texte semble pivoter sur son axe. Les comptes rendus, les préfaces de cette période, semblent obéir davantage à une logique, presque une logique d'alerte. Foucault, qui est alors une figure, qui est devenue une figure connue et majeure de la lutte contre le système carcéral, jette une lumière sur les ouvrages comme « De la prison à la révolte » de Livrauset, ou « Leur prison » de Bruce Jackson, ou le livre de témoignage d'un pompier anonyme, un article étrange qui s'appelle « Un pompier vend la mèche » en 1975, ou de Jacques Mesrine, le poster de l'ennemi public numéro 1 en 1977. On pourrait même parler d'une logique de renfort, voire d'adoubement, pour le texte intitulé « La grande colère des faits », où Foucault rencontre du livre d'André Glucksmann, « Les maîtres penseurs ». Une prise de position assez claire, aux côtés de l'un des représentants de ces nouveaux philosophes, génération montante, vraisemblablement désireuse de ce type de reconnaissance. La série de ces textes, en bref, paraît esquisser la silhouette d'un auteur peu à peu susceptible de peser par son appui sur la destinée des livres qu'il commente. Là où, plus jeune, il cherchait d'avant tout à consolider par des textes du même type à la fois sa problématique propre et l'écho public de ses travaux. Donner un dernier exemple, l'incipit du dernier compte-rendu que Foucault fait paraître à propos de l'ouvrage de Dover, je cite « Voici en tout cas un éditeur, un tout petit, qui vient de publier en français fort bien le Dover, déjà classique, encore récent. » Voilà un hommage du grand auteur au petit éditeur dont l'intention ne laisse guère de doute. Il me semble toutefois qu'on serait dommage de s'arrêter là. C'est-à-dire que si cette interprétation des stratégies d'écriture en termes de position, tantôt d'inféodation au texte qu'on commente, tantôt de soutien au texte que l'on préface, si cette lecture-là est en gros assez indiscutable, elle manque peut-être les textes dans leurs détails. Elle définit en quelque sorte les contraintes à l'intérieur des textes, à l'intérieur desquels, pardon, Foucault loge son écriture. C'est-à-dire que si les textes de Foucault ne sont pas étrangers à la distribution des positions institutionnelles, s'ils ne parlent pas depuis un grand dehors indifférent aux règles sociales, aux échanges de bons procédés, le dehors n'existe pas, dit Foucault dans un texte en 72, je crois, il reste à se demander comment Foucault introduit à l'intérieur de ce jeu-là suffisamment d'écart pour déjouer les pièges du commentaire diagnostiqué par ailleurs. Je veux dire, comment est-ce que Foucault, à l'intérieur de ce jeu très contraint, arrive à laisser aux ouvrages dont il rend compte la désinvolture de se présenter comme discours? À parcourir, parcourant avec cette question-là dans la tête, comment déjoue-t-on le caractère impur de ces pratiques d'écriture, à parcourir la série de textes dont j'ai parlé, j'ai été assez frappé par la constance de la solution à laquelle Foucault recourt. Pour la décrire d'abord abstraitement, Cette solution me paraît comprendre deux faces. D'un côté, il va s'agir de conjurer tout jugement du livre en vérité, en soulignant justement comment la nouveauté de ce livre tient à la manière dont il défait la figure ordinaire et attendue du vrai. On ne dira pas le vrai du livre parce que le livre déplace les bornes du vrai. D'un autre côté, l'autre face de cette stratégie foucauldienne va consister à thématiser aussi souvent que possible l'événement de discours que constitue le texte source. Autrement dit, rapporter la nouveauté du livre par-delà ses thèses, par-delà ses contenus, au réaménagement que ce livre opère dans l'espace du disciple, c'est-à-dire aussi aux énoncés nouveaux qu'il permet de former à partir de lui. Ah oui, bien sûr, Foucault est un philosophe, un historien de la vérité, un philosophe du discours. On y retrouve ces dimensions-là dans ces textes, pas très très étonnantes, mais je crois qu'il y a davantage. Je crois que cette double insistance que je vais essayer de décrire est une manière de conjurer la monotonie du commentaire et ce jeu des autorisations, cette espèce de dénivellation hiérarchique qui fait des recensions et des préfaces, tantôt les obligés du texte, tantôt leur bienveillante marraine. Je prends quelques exemples volontairement disparates, parce qu'il me semble que le disparate des textes fait mieux apparaître l'insistance de cette stratégie. S'agissant du premier aspect, cette affaire d'ébranlement du vrai, ce motif apparaît dès l'ouverture de la première recension que publie Foucault et qu'il consacre à Alexandre Coiré. Je cite. « Il y a des histoires tristes de la vérité, celles qu'endeuille le récit de tant d'erreurs féeriques et mortes. Le livre de M. Coiré est tout ce qu'il y a de moins triste. Il raconte d'une voix grave d'érudit les noces merveilleuses et ininterrompues du vrai et du faux. La rigueur dans la présentation de ce texte si peu connu et leur juste exégèse tiennent à un double propos d'historien et de philosophe, ne prendre les idées qu'en ce moment de leur turbulence, où le vrai et le faux ne sont pas encore séparés. » 15 ans plus tard, c'est encore sur la mise en question de la vérité que s'ouvre le compte-rendu de l'ouvrage d'André Glucksmann. Je cite « Ce qui s'est passé de moins insignifiant dans nos têtes depuis une quinzaine d'années, je dirais dans un premier mouvement, une certaine rage, une sensibilité impatiente, irritée à ce qui se passe, une intolérance à la justification théorique et à tout ce lent travail d'apaisement qu'assure au jour le jour le discours vrai. » On reconnaît là, bien sûr, des thèmes chers à Foucault. L'archéologie comme remontée en deçà des partages du vrai et du faux, la généalogie comme mise en charpie du discours théorique. On devrait tout de même prêter l'oreille, parce que cette affaire de s'inquiéter des jeux du vrai et du faux, dans le texte sur Coiré, en fait, ne se formule chez Foucault lui-même, pour Foucault lui-même, que beaucoup plus tard, à partir de 1970. Ce motif-là, ces jeux du vrai et du faux, trouve un premier frayage dans cette courte notule publiée dans la Nouvelle Revue Française. Les préfaces sont des textes importants. Mais surtout, à mentionner ainsi, du départ, la manière dont ces livres témoignent d'une mise en question de la référence au vrai. Foucault soustrait du même coup à cet horizon même le rapport entre le texte qu'il écrit et le rapport du texte dont il parle. Je veux dire que, en invoquant d'entrée de jeu la critique de la vérité, il neutralise la vérité de la critique. Il indique clairement qu'il ne s'agira pas pour lui de faire le tri. Oui, je sais, c'est cagneux. je t'ai vu, Jean-François. Mais je n'avais pas trouvé de formule plus simple. Il indique clairement, pour donner à ma formule un caractère moins canal, qu'il ne s'agira pas pour lui de faire le tri, dans ce qu'il va raconter, entre les énoncés recevables et les énoncés irrecevables. Ce n'est pas un rapport de vérité qui nouera la préface ou le compte-rendu au texte source. On pourrait dire, en ce sens, il s'autorise des livres même qu'il commente pour pratiquer à leur égard ce qu'on pourrait appeler une stratégie de l'oxymore. Par exemple, parce que Coiré étudie le caractère contemporain des découvertes et des erreurs scientifiques, eh bien on va se demander s'il y a des histoires de la vérité tristes et des histoires de la vérité merveilleuses. Curieuse catégorie. Ou encore, parce que Glucksmann jette le soupçon sur les maîtres penseurs, on opposera à la vérité une certaine rage, et on considérera cette mince rage comme ce qui s'est produit de moins insignifiant depuis 15 ans. Évidemment, ces glissements sémantiques en forme de grand écart relèvent du motif rhétorique de la captatio benevolentiae. Il s'agit de capter l'attention du lecteur. Mais je crois que, plus profondément, en sourdine, ils viennent modaliser le geste même de rendre compte, en marquant bien qu'on ne va pas laisser de côté l'occasion d'écrire, on ne va pas laisser en coulisses le fait qu'il s'agit d'écrire sur la parution d'un nouvel ouvrage, on va au contraire libérer cette dimension à supposer inessentielle du texte, de la préface, du compte-rendu, la libérer de toute référence à un canon de vérité extérieure qui obligerait le commentateur à recueillir pieusement la vérité du texte, première posture, ou au contraire à juger sévèrement celle-ci. On sait d'habitude qu'il y a deux types de préfaces, hein, les préfaces en adoration et les préfaces au stylo rouge. Foucault tente d'éviter l'une et l'autre de ces impasses. Non pas donc, est-ce vrai, mais quoi de neuf ? Cette posture, évidemment, pourrait sembler le signe d'une frivolité déplacée si Foucault se contentait de s'émanciper de la recherche de la vérité pour papilloter dans l'actualité, comme succession de moments dont chacun chasse l'autre. Or, la règle que se fixent assez constamment les comptes rendus et les préfaces que rédige Foucault, cette règle va consister à rechercher dans la constitution discursive de son objet la règle de sa nouveauté. Je veux dire, à chercher dans la structure de langage du texte la façon dont il rompt avec le régime de discours qu'il précède. On le vérifie dès les années 60, par exemple à propos de la traduction de l'Énéide par Klossowski, écrit « Il faut bien admettre qu'il existe deux sortes de traductions. Les unes font passer dans une autre langue une chose qui doit rester identique, le sens, la valeur de beauté. Elles sont bonnes quand elles vont du pareil au même. Et puis il y a celles qui jettent un langage contre un autre, assistent au choc, constatent l'incidence et mesurent l'angle. » À propos de Jean-Pierre Richard, « C'est en ce point, me semble-t-il, que le livre de Richard découvre ses plus profonds pouvoirs, la mise au jour de ce qui doit être l'objet propre de tout discours critique, le rapport à cet être singulier, profondément ambigu, qui s'appelle le langage. » De même à propos de la grammaire générale d'Arnaud et Nicole, etc. Dans chacun de ces cas, Foucault pratique une lecture en quelque sorte métonymique. Les textes traitent du langage, les livres dont il parle traitent du langage, eh bien, ils vont se trouver eux-mêmes lus comme des dispositifs de langage. Comme des dispositifs de langage, et ils vont être interprétés, mesurés, à leur capacité de bouleverser les formations discursives auxquelles ils appartiennent. Il est très frappant qu'à propos de Jean-Pierre Richard, Foucault parle non pas de l'intérêt du texte, non pas de l'importance du texte, mais des pouvoirs du texte. Le texte a un pouvoir parce qu'il modifie, il change la donne dans le jeu du discours. Enfin, ce pouvoir des livres est essentiellement interprété par Foucault, non pas simplement comme la trace d'une intention de l'auteur, mais comme l'ouverture d'une possibilité offrant, autorisant la formation d'autres énoncés. Par exemple, à propos de la traduction de Klossowski, il dit que Virgile nous souffle notre langage. Il dit notre ordre le plus ancien, du fond du temps, il prescrit notre prose et la disperse sous nos yeux d'une haleine étincelante. Je trouve que l'image de l'haleine étincelante est parfaitement nulle, mais on n'est pas toujours tenu d'être brillant. À travers cette insistance-là, quelque chose de la déférence obligée du jeune préfacier vis-à-vis du texte principe, quelque chose se théâtralise mais s'estompe. L'auteur a crédité de nouvelles voies au langage, très bien, mais ces nouvelles voies, d'autres pourront les emprunter. D'autres que l'auteur pourront les emprunter et il est frappant que Foucault emploie à ce moment le « nous ». Il « nous », il dit « notre ordre le plus ancien », toujours un pronom très stratégique chez Foucault, le « nous », c'est la communauté ouverte de ceux qui sont pris dans l'espace d'une même transformation. Bon, on pourrait juger mon hypothèse assez fragile, après tout, le Foucault des années 60, c'est celui qui traite, en tout cas dans ces textes-là, principalement du langage, rien d'étonnant à ce qu'il y prête attention aussi, dans la structure des textes qu'il explore. Or, il est remarquable que, loin de s'amenuiser, ce souci de la constitution discursive des textes se renforce encore dans les années 70, en particulier dans la série d'articles de combat où Foucault apporte son appui à des ouvrages qui portent sur la condition carcérale à partir de la mobilisation du GIP. Au moment même où, dans ses grands livres, l'analyse discursive cède la place à un enfoncement dans l'ordre des corps, des techniques, eh bien, l'exégèse, la présentation des livres, les comptes rendus, les préfaces, se déploie entièrement à la surface des modalités du dire. Traque la manière dont l'ordre du discours veille ou se trouve mis hors jeu. Alors, au fond, je pense que les préfaces et les comptes rendus de cette série-là sont le seul véritable prolongement que Foucault a donné à la problématique qui est celle de l'ordre du discours. Alors, le discours, qui est un programme immédiatement abandonné par Foucault, trouve une sorte de prolongement dans ces textes-là. Les textes du GIP avaient d'ailleurs ouvert la voie, puisque la préface de la première brochure du GIP insistait beaucoup sur le questionnaire. Fait que comment avait circulé le questionnaire, comment il avait passé à l'intérieur des prisons, etc. Le matériau discursif était mis en avant comme objet central de la lutte politique. C'est ce même angle d'attaque qui se trouve repris dans la préface à l'ouvrage de Livrauset. Foucault dit que si cet ouvrage est important, c'est parce qu'il perturbe la distribution attendue entre les récits de vie énoncés à la première personne, les condamnés racontent leur vie, et puis la formulation par d'autres, de discours, de théories à prétention scientifique. Je cite, « C'est précisément dans l'espace blanc de ce discours interdit, pour parler prisonniers eux-mêmes, que la criminologie, la sociologie, la psychologie du crime ont trouvé leur place. » Le livre de Serge Livrauset dérange cette distribution. Il reprend le fil d'un discours que les censeurs de Lassner, etc. Même type de lecture, même type de lecture comme, du texte comme perturbation d'une distribution des discours à propos du texte de Bruce Jackson. Je cite, une tradition qui s'était formée au XIXe siècle opposait deux registres de discours que la délinquance tenait sur elle-même. D'une part, nous autres délinquants, nous sommes les produits de la société, mais si le délinquant est un produit, la délinquance elle-même dans son geste est présentée comme une révolte. Dans le livre que voici, c'est un discours tout inverse qui est tenu. Et on pourrait multiplier les exemples. Exemple frappant, le texte à propos de Mesrine, où Foucault laisse tomber absolument et intégralement le contenu du texte. Le contenu du livre de Mesrine est préfabriqué et vendu d'avance, ce qui lui vaudra une lettre de Jacques Mesrine que nous avions exposée dans l'exposition de Lyon et qui est assez piquante. Mesrine n'était pas dupe. Mais donc sur quoi est-ce que s'arrête Foucault? Sur la façon dont la sortie du livre dérange le tempo du discours de l'aveu. Sur la façon qu'elle anticipe sur le moment attendu de l'aveu. Il me semble que cette insistance, d'autant plus frappante que Foucault n'en est plus au discours dans l'ordre de ses recherches propres, il me semble que cette insistance, son choix d'aborder les ouvrages sous l'angle du dire, est encore une façon de déjouer le rapport hiérarchique du rapport entre le texte, de la relation entre le texte et paratexte. Double hiérarchie en réalité. D'un côté, les textes que Foucault introduit ont pour eux de constituer des témoignages, s'authentifiant de l'expérience de leur auteur, dimension que Foucault était loin de considérer comme négligeable. D'un autre côté, l'acte même de préfacer ce type d'ouvrage constitue évidemment une façon de mobiliser le statut d'intellectuel pour conférer un surcroît de dignité au texte ainsi introduit. Donc, en bref, entre le livre et son préfacier se font face le témoin avec un T majuscule et le penseur avec un P majuscule. Et on voit les multiples figures assez stériles auxquelles ce couple peut donner lieu. Le penseur s'émerveillant de l'authenticité du témoin, ou bien le penseur expliquant avec condescendance qu'il faut s'émerveiller de l'authenticité du témoin. Je vous donne une légitimité, mais c'est moi qui vous la donne. Bref, un rapport profondément contradictoire avec le type de relation politique que Foucault essaie d'établir entre les recherches théoriques et les luttes minoritaires ou les luttes politiques de l'époque. Là où Foucault cherche à articuler une relation horizontale, transversale, entre les luttes mineures et les savoirs mineurs, le rapport de la préface ou du compte-rendu avec le livre risque de réintroduire un jeu très attendu entre le témoin sincère qui parle d'en bas et puis l'intellectuel qui le regarde d'en haut. Il me semble qu'à cet égard, le choix de prendre appui sur l'événement de discours que constituent les livres en eux-mêmes a quelque chose d'une décision politique. Ne pas s'en tenir à l'éloge naïf d'une parole d'en bas, ne pas se présenter non plus comme l'autorité intellectuelle susceptible de rendre à cette parole, encore obscure à elle-même, sa pleine signification, la porter à sa conscience de soi, mais réinscrire plutôt et le texte qu'on lit et le texte qu'on écrit dans le prolongement commun d'une même rupture dans l'ordre des énoncés. La situer dans l'horizontale du discours ou dans ce que Foucault appelle, à propos de Livrauset, l'immanence d'une pensée. Je cite, « Le livre de Serge Livrauset se rattache à toute une ancienne tradition qui fut systématiquement ignorée ou méconnue, car il y a depuis fort longtemps une pensée de l'infraction intrinsèque à l'infraction elle-même. » Examinant ces pratiques d'écriture secondaire que constituent le compte-rendu, la recension, la préface, j'ai essayé successivement d'en isoler le dilemme constitutif, commenter ou pas, prolonger les effets d'un texte ou risquer de fixer son identité. J'ai essayé de montrer que cette difficulté se module à travers une trajectoire biographique où la dénivellation entre le texte et son paratexte s'inverse à mesure que l'auteur gagne en notoriété. Et puis j'ai essayé d'indiquer quelques-unes des stratégies d'écriture qui n'annulent pas entièrement cette hiérarchie, il n'y a pas de hors-pouvoir, mais qui en réfléchit les conditions, qui en limite les effets, qui vient replier sur la ligne horizontale des transformations discursives le surplomb, le jeu de surplomb, qui peut séparer le grand texte de son commentateur intimidé, ça c'est le jeune Foucault, ou le livre de témoignage de son préfacier fameux. Il resterait à évoquer, mais je ne vais pas le faire car j'ai déjà suffisamment de temps, il resterait à évoquer le cas particulier de ces textes où justement le surplomb n'est pas présent et où tout le problème vient non pas du surplomb, mais de son absence. Je veux dire de l'intime proximité qu'entretiennent ensemble le préfacier et son auteur, ou le commentateur et le commenté. Resterait à traiter des cas très particuliers qu'on constitue, d'une part, les textes que Foucault consacre à Deleuze, Ariane s'est pendue en 69, Telatrum Philosophicum en 70, puis la préface pour l'édition américaine de l'Anti-Oedipe en 77, puis d'autre part, les textes consacrés à Georges Canguilhem, la traduction du normal et le pathologique que Foucault reprend et retravaille un petit peu à la toute fin de sa vie. Ce sont des textes d'une grande densité, d'une grande complexité, mais j'ai déjà pris suffisamment de temps, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
Merci beaucoup.